voir naître le fleuve des eaux de fonte d'un glacier. Voir le Rhône comme une puissance binationale. Voir le fleuve comme une autoroute nord-sud. Voir à Arles en 1929 un pont de glace relier ses rives. Voir le fleuve comme une veine vitale de 812 km. Voir l'eau boueuse crotter les rues par temps de crue. Voir le lit du fleuve bouleversé par un chaland envasé. Voir le trafic fluvial comme une opportunité. Voir un homme vider le contenu d'une poubelle dans l'eau glauque du fleuve. Voir l'eau dure enserrer les artefacts du futur. Voir un canard plonger dans le verre de gris pour attraper son dîner. Voir le chat au réau de la rue Sennebier trotter sur les quais. Voir, ou pas, l'émotion des heures sur le miroir du fleuve. Voir, ne plus, les mutations du fleuve au fil des heures. Êtes-vous blasé? Êtes-vous revenu de sa beauté? Voir, ne pas, les polychlorobiphényles qui polluent ses eaux. Voir, ne pas, comment les dérèglements climatiques changent la dynamique fluviale. Voir, ne pas, la disparition d'un bras. Fermer les yeux sur tout ce qui n'est pas bleu, les rouvrir et aimer enfin d'amour ce fleuve, avant qu'il ne soit trop tard.
Nos corps portent en eux et en cette surface qu'est la peau, les stries, les bosses et les creux, laissés par le temps qui écrit. Taillés, sculptés ou gravés dans le marbre, le calcaire, le nicolo, la cornaline, le lapis, lazuli, le verre, le cuivre, la terre dure, le bois et les éclats de toute matière. La représentation de nos figures et les objets du quotidien ouvre la voie à la fiction, que le temps travaille au corps. Le mensonge de la fiction est un éclat de vérité informée, incarnée et imprégnée de l'essence de nos émotions individuelles et collectives. Ce mensonge magique veut abolir pour un instant, avec les outils de la fiction, mots imaginaires, rythmes, la distance temporelle, linguistique et culturelle qui nous sépare des gens d'autrefois et de demain. Dans cette humanité si dense et si fragile qui est notre seul refuge.
Elle dit « Le bleu, c'était ma couleur. Robe, étole, collier, dormeuse, pull, denim, bague ornée d'une agate, le bleu dans toutes ses déclinaisons était son dada. » Et pour appuyer ses propos, en buvant le thé brûlant que je lui ai préparé, elle égrène comme les mots magiques d'un mantra toutes les facettes du bleu qui faisait sa joie. Barbeau, pervenche, pastel, indigo, bleuet, marine, de mer, lapis lazuli, saphir, vert d'eau, lin, clin, majorelle, aigue marine, nicolo, musée, turquoise, de méthylène, nu, jusqu'au parme sale qui tend le petit doigt. Au gris chiné de son t-shirt de nuit qu'elle porte ce soir avec un jean. J'aimais tous les bleus sauf les blouses, dit-elle. Puis elle soulève sa frange et je vois l'ecchymose qui lui mange le tiers du front, fruit pourri d'un désamour violent. Frappée la veille au-dessus de l'œil droit, Antonia n'aime plus dans les bleus, dit-elle. Que l'azur intemporel du ciel de juin.
Thank you.
Vois-tu ce pli doux creusé dans la chair et la pierre pour les siècles des siècles? Que penses-tu de ce pli que tu ne peux pas toucher, mais qui fait sans doute écho dans l'intimité de ton œil intérieur et de tes pensées à la calvitie portée par Jules comme deux cornes de peau? La ride du lion, moins affirmée que les pattes d'oie et le pli d'amertume, plus douce que les plis du front et les anneaux de Vénus, contient dans son sillon tous les tourments du temps, de son temps et du nôtre, du dehors et du dedans. Car le visage de cet homme, César peut-être, vivant jadis désormais mort, que tu ne peux pas ne pas voir tel qu'il est maintenant, figé dans la chair d'hier de marbre de Turquie, et Jules à sa façon. Après que la terre a bu le sang des corps tombés au combat, après que l'étoffe de lin ou de laine a bu les fluides incolores et les menstrues des corps nubiles, elle ont foulé le pavement de chaos ordonné en tesselle, pieds nus ou en caligae. Main dans la main, épaule contre épaule. Cul sur scènes et figures de feu, à fleurs de terre et de mosaïque, hanches et cuisses posées sur lits de libation, ils ont fait la guerre, mangé et baisé. Comme il nous arrive en notre temps, si l'autre consente au jeu de l'amour sous les auspices des muses, si notre apparence est en accord avec notre humeur, si le désir n'est pas retourné dans son holster, si la faim peut être comblée de boustifailler et de nous aimer sans chichi, sans cérémonie, à cœur de jour et de nuit.
Dans ton regard et dans les miroirs du quotidien, écrans de portable ou d'ordinateur, dos de cuillère, carrosseries rutilantes, présentoirs et vitrines de magasins, je suis plus vieille qu'hier. Pourtant, dans ma tête, j'ai 30 ans. À 15 ans, j'avais 30 ans. Depuis 14 ans, j'ai 30 ans. Mais en dépit de mes rêves figés dans le temps, et de mes regrets changés en souvenirs, je n'aimerais pas avoir le visage de marbre magnifique et parfait, malgré les cassures et les fractures, de cette Vénus génétrix, sur laquelle la vie vraie n'a rien écrit. Mais le temps est que ni les drames intimes, ni les joies, ni les déceptions, ni les victoires, ni les échecs n'auraient pu changer, déplanter, car je préfère jouir du privilège de vivre assez longtemps pour avoir finalement et enfin le visage usé des animaux rattachés à l'humanité. Ce fil rouge sang qui nous enserre tous dans une large étreinte et un violent amour.
membre est de la première nuit, celle des semences avant toi, avant moi et avant nous. Il ne prend pas racine dans l'humus de l'insulte bien sentie, bien envoyée, tendue comme un majeur effronté que tu adresses matin et soir, pour vrai ou au plus profond de ta conscience en ton fort intérieur. C'est presque pareil, à tout est méchant. Ce membre, demi-dieu, est du haut et du bas, mais il prend sa source dans la voie du milieu. C'est le doigt triomphant de Jupiter sur le corps de son fils Hercule, en peau de bronze.
Il y a une dizaine d'années, j'ai reçu en cadeau un pendentif en argent vieilli, de forme oblongue. C'était un petit cylindre creux de 3 cm de longueur, composé de 2 pièces. Un corps richement travaillé et un capuchon à visser surmonté d'une bélière. Dans le corps de cette boîte secrète, on pouvait glisser ce qu'on voulait de petit. Un vœu, une prière, un pentacle dessiné sur un bout de papier, un morceau de coton imbibé de parfum, des éclats de pierre semi-précieuses pour la chance, une mèche de cheveux pour garder près de soi le souvenir d'un enfant ou d'un parent disparu. J'étais malheureuse comme les pierres à cette époque. Alors j'ai tout de suite inscrit un vœu de changement sur un carré de papier de coton que j'ai glissé dans le porte-amulette. J'ai passé une chaînette en argent dans la bélière et enfilé le bijou magique sans attendre. Je l'ai porté chaque jour pendant quelques semaines. Puis un soir, chez moi, après avoir retiré mon foulard d'hiver devant un miroir, j'ai vu que le corps creux de mon pendentif s'était dévissé. Il avait disparu avec son message. On n'est jamais content de perdre un objet précieux, surtout en temps de crise, et quand on est sujet à la pensée magique, on peut facilement prêter à un événement inattendu une signification particulière. Vœux exaucés, malheur amplifié. Mais ce qui me catastrophait bien plus que la perte du bijou, c'était que quelqu'un puisse trouver le parchemin sur lequel j'avais inscrit mon nom au complet. Je n'ai jamais retrouvé le corps du pendentif ni la note intime qu'il contenait. Mais la chance a enfin tourné pour moi. Dans cette logique de l'équilibre dont je n'ai pas le secret mais qui me rassure sur la vie. Je n'avais plus repensé à cette époque de poisse et de tristesse jusqu'à ce que je découvre ici, au Musée Bleu, un porte-amulette de la fin du IIIe siècle semblable à celui que j'ai possédé brièvement. La forme et la description de cet objet magique en bronze d'un autre temps ont aboli en un instant la distance qui me sépare de son utilisatrice. À qui j'espère que la chance a souri.